Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptation au changement climatique dans les pays les plus pauvres.
Et oui, dans ces pays, l'avenir des millions de personnes va dépendre de l'engagement de la communauté internationale parce que sur place, la situation se dégrade.
On ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est ici qu'on se débrouillait. Maintenant que la digue a cédé, l'eau s'en va et il n'y a plus de poissons. Or, c'est ce qui nous permettait de vivre. Si j'étais venu d'ailleurs, j'y retournerais immédiatement. Mais ici, c'est chez moi. Lorsqu'il y a du poisson, on peut gagner le minimum, parfois 5000 francs par jour ou 2000 francs quand ça ne marche pas. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus d'eau, on ne peut plus pêcher, on est bloqué.
L'organisation Oxfam, qui vient de sortir un rapport sur cette question de l'adaptation, s'interroge. Comment faire pour que l'aide soit à la hauteur des besoins et qu'elle parvienne aux pays les plus pauvres? C'est ce que nous verrons tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Aujourd'hui, je pense que les hommes sur toute la planète savent que ceux qui portent atteinte à l'environnement, que ce soit des États qui se rendent coupables de violences portant atteinte à l'environnement mondial, ou que ce soit des entreprises qui exploitent, surexploitent des ressources, sont coupables.
Mais tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité environnementale avec notre témoin du jour. Et aujourd'hui, c'est vous, Christophe Aguiton. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'un des fondateurs de l'association altermondialiste ATTAC, qui a décidé depuis plus d'un an de se positionner sur les questions d'environnement. Alors, avec quelle approche ?
D'abord, ça concerne tout le monde. Donc, je crois qu'il est normal que l'ensemble des forces sociales, des associations, des syndicats s'intéressent à ces questions. Et on voit sur Copenhague se préparer une mobilisation dans laquelle on va retrouver syndicats et associations. Alors, ATTAC le fait en toute modestie, parce qu'il y a toute une série d'ONG, de mouvements et d'associations qui sont depuis bien plus longtemps que nous sur ce terrain et qui ont donc une expertise, une expérience qui est plus forte que la nôtre. Donc, on y va vraiment aussi pour apprendre. C'est la première des choses. Et puis, avec l'idée que sur certains domaines, on a un petit peu d'expertise et d'expérience. Exemple, toutes les questions de la finance internationale, sur quoi s'est créée ATTAC il y a plus de 10 ans maintenant. La taxe Tobin qui était un de nos chevaux de bataille, mais il y en avait d'autres questions. Il y avait tout ce qui relevait de la bataille contre la spéculation, dont on a vu les effets l'an dernier au moment de la crise bancaire. Bon, et on voit bien comment sur les questions climatiques, on a utilisé le même type de mécanisme, en particulier ce marché des droits à polluer, qui est lui aussi un marché mondial, exactement comme celui des produits dérivés, des actions ou des monnaies. Et on considère que ce qui s'est passé sur le marché monétaire pendant la crise asiatique ou sur le marché bancaire l'an dernier, est un mauvais indice de ce qui pourrait arriver sur le marché du carbone, et on préfère d'autres types de mécanismes. Donc, sur ce type de terrain, on a des choses à dire parce qu'on a pas mal travaillé ces questions sur sur des champs assez comparables.
Alors, pour commencer ce tour de l'actualité environnementale, Arnaud, il y a la semaine de la mobilité.
Oui, Anne-Cécile, semaine de la mobilité qui a commencé hier et qui est une manifestation européenne pour sensibiliser les citoyens et les décideurs à l'impact environnemental de nos modes de transport, et qui du même coup permet de faire découvrir des alternatives existantes. Alors, pour illustrer cette semaine, Patricia Vigneault nous propose aujourd'hui un sujet sur Paris, une ville peu industrialisée et pourtant très polluée à cause du trafic routier, une ville qui à elle seule produit 10% à 20% des émissions de gaz à effet de serre de la région Île-de-France.
Depuis que Bertrand Delanoë est arrivé à la tête de la mairie de Paris en 2001, il a mené une politique de réduction de la pollution. Construction d'un tramway, augmentation du nombre de bus et, depuis 2007, le fameux Vélib, le vélo en libre service. Résultat, en 8 ans, la pollution a diminué de 32%. Mais Bertrand Delanoë ne compte pas s'arrêter là.
Autolib, qui va être un système révolutionnaire, qui permet de vivre la ville en diversifiant ses modes de déplacement. Mais là, vous aurez une voiture seulement pendant le temps où vous en avez besoin. Elle sera totalement non polluante.
Le principe d'Autolib reprend donc celui du Vélib. L'objectif, d'ici la fin 2010, 3000 voitures réparties dans 1000 stations à Paris et son agglomération. Le faible prix de la location, entre 4 et 6 euros la demi-heure, devrait encourager les utilisateurs à privilégier ce type de déplacement. Autre véhicule d'avenir, le scooter électrique. Encore faut-il que les Parisiens l'adoptent. Amélie, pharmacienne, n'est pas convaincue.
Les points un peu négatifs, c'est le prix, 2 850 euros, et sa durée de vie sera en moyenne 5 ans. Et la deuxième chose, c'est que les batteries au lithium, c'est difficile de les recharger chez soi, donc d'attendre dans une station pendant 4-5 heures, c'est un peu casse-pied aussi.
Mais la ville de Paris est bien déterminée à poursuivre sa politique de lutte contre la pollution, comme le souligne Anne Hidalgo, première adjointe au maire.
Les déplacements ne cessent d'augmenter. Le but du jeu n'est pas d'attirer plus de voitures pour ceux qui viennent dans ce qu'on appelle le rotatif. C'est de permettre aux résidents de pouvoir garder leur voiture, mais pas d'attirer plus de voitures dans Paris. Il est d'offrir les possibilités de déplacement qui n'empêchent pas les gens de pouvoir aller à leur travail, aller se promener, sortir le soir. Nous devons offrir cela et nous privilégions l'offre de transport collectif non polluant.
Pourtant, actuellement, dans les rues de Paris, seulement 2 véhicules sur 1000 sont électriques.
Alors Christophe Guiton, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives que développe la mairie de Paris pour moins polluer ?
C'est sûr que si on peut avoir plus de vélos, plus de transports en commun, ça va dans le bon sens. Maintenant, je pense qu'il faut prendre le problème globalement. L'étalement urbain est un problème évidemment pour l'environnement, mais aussi pour ceux qui vont être piégés dans ces grandes banlieues résidentielles où les transports en commun sont quasi impossibles. N'oublions pas que les villes, c'était une construction européenne, arabe et asiatique et qui fonctionnait évidemment à pied. Qui pensait pouvoir se développer, se déplacer à Rome, à Pékin, à Damas ou à Grenade avec une voiture il y a un millénaire? Et on a eu un nouveau modèle qui s'est imposé à partir des États-Unis, un peu de l'Australie, qui est celui de l'étalement sans fin, ça n'est plus possible. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a toute une série de gens qui vont devoir changer leur mode de vie et qui sont souvent les plus pauvres. Il faut aussi faire attention à ça. Et c'est un des gros enjeux pour nous.
Justement, pour rester sur ce thème, nous avons avec nous en studio un acteur de cette mobilité propre, Gérard Mathieu, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, vous êtes le directeur fondateur de Move on Earth, une entreprise qui vend des vélos et scooters électriques. Gérard Mathieu, pourquoi cet engagement sur le transport propre ?
Je suis sans doute je vais commencer à être un des plus vieux écologistes de France, puisque j'ai participé à la Fondation des Verts, et fut un temps, mouvement que j'ai quitté depuis. Et lorsque j'ai eu, on va le dire comme ça, l'opportunité de créer mon entreprise, étant utilisateur d'un scooter électrique depuis 4 ans, j'ai sauté le pas, et c'est ça qui m'a décidé à monter cette entreprise qui a du mal à se développer du fait des propos qu'on vient d'entendre. Je pense que la brave pharmacienne qui pense que c'est embêtant de charger pendant 5 heures son scooter, elle doit pas forcément faire plus de 80 km, puisqu'aujourd'hui c'est l'autonomie des scooters électriques. Voilà ce que j'ai à dire sur
mais,
ce...
Mais pourquoi avoir opté pour ça? Il n'y a pas d'autres alternatives, évidemment.
J'avais bien pensé à faire de l'information dans le domaine de l'écologie, mais vous faites ça très bien, ou d'autres pistes. Mais vraiment, c'est parce que j'étais utilisateur d'un produit électrique, je voyais que ça marchait, que ça pouvait rendre des services, et surtout que dans ce domaine-là, on le constate par l'actualité, c'est un monde qui est en perpétuelle évolution.
Cela dit, vous avez du mal quand même.
Ben oui, j'ai du mal parce qu'il faut convaincre. Moi, mon système de vente n'est pas un système de vente où j'attends mes clients derrière un comptoir dans une boutique. Je vais porter les produits à des gens sur les foires, salons, expositions, même à leur domicile, où les gens sont toujours étonnés de la capacité des produits que je présente. L'autre jour, une police municipale était complètement stupéfaite de la pêche que pouvait avoir le scooter qui était présenté et de l'économie que ça représente, parce que quand la pharmacienne dit 2850, il faut en déduire la prime de 400 euros sur Paris, et puis c'est 0,50 du 100 km, et ça, sans entretien. Absolument. Donc vous partez avec une citerne de carburant derrière le scooter.
Merci Gérard Mathieu pour ce témoignage et bon courage. Christophe Guiton, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a besoin là d'investissements importants. À Paris, le gros problème d'énergie jusqu'à la fin du 19e, c'était l'entrée du foin, le transport du foin pour les chevaux. Ensuite, ça a été un réseau de pompes, tout simplement pour les voitures. Et il faut maintenant en effet un réseau de prises électriques. C'est, je crois, un des problèmes de gestion les plus importants.
En même temps, j'ai un vélo électrique, les prises électriques. Pour les acheter soi, et les batteries sont très faciles à transporter.
Pour le vélo, c'est vrai. Mais même, moi j'habite au 4e étage, c'est-à-dire qu'il faut monter le vélo chez soi.
Non, juste la batterie qui se détache du vélo.
Oui.
C'est plus compliqué pour les voitures.
Voilà, c'est plus compliqué pour les voitures, en tout cas.
C'est pas du vent sur RFI et c'est le moment de nous intéresser à l'actualité environnementale d'un continent. Aujourd'hui, zoom sur l'Asie.
Et l'Asie, c'est avec vous, Sophie Malibaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence avec la sortie de Dokkov, la petite baie en français.
I do want to say that we try to do the story legally.
There it is. A little town with a really big secret.
Ce film où l'on entend le cri des dauphins qu'on assassine se passe autour justement de cette petite baie régulièrement rougie par le sang des mammifères marins. Et évidemment, c'est au Japon que ça se passe.
Et plus précisément, dans la baie de Taiji, ouverte sur l'océan Pacifique. Chaque année, à partir du 1er septembre, les pêcheurs organisent une sorte de battue. Les dauphins se retrouvent coincés par milliers dans cette petite baie. Les plus beaux spécimens sont revendus pour être montrés en spectacle et les autres massacrés. C'est ce que montre le documentaire The Cove, la baie de la honte, récompensé cette année au festival du film indépendant de Sundance. Il dénonce la sauvagerie de la tuerie et touche une corde aussi particulièrement sensible au Japon en pointant du doigt le fait que manger cette viande de dauphin constitue un risque pour la santé car elle contiendrait d'importantes concentrations de mercure. Or le Japon, c'est bien connu, a la hantise de la pollution au mercure depuis la catastrophe de Minamata qui a vu des milliers de gens contaminés par le mercure rejeté par une usine chimique. Ce film provoque donc l'émoi à Taiji et au-delà, car les Japonais se sentent une nouvelle fois visés, eux qui déjà revendiquent pour certains le droit de consommer de la baleine.
Bah oui, mais il faut assumer, hein. Alors, une bonne nouvelle, l'énergie du vent en Chine pourrait répondre à la demande d'électricité des Chinois d'ici 2030.
Les Chinois, dont le pays connaît une croissance accélérée, ne savent pas comment répondre aux exigences de réduction des gaz à effet de serre. Qu'à cela ne tienne, des experts américains de Harvard se sont penchés sur leur sort dans une étude que l'on peut lire dans la revue Science du 11 septembre. Ils imaginent un réseau d'éoliennes qui n'occuperait que 500 000 km², autrement dit pas grand-chose à l'échelle du pays. Des turbines tournant ne serait-ce qu'à 20% de leur capacité pourraient produire jusqu'à 7 fois la consommation électrique actuelle. Évidemment, cela représenterait tout de même un gros investissement de l'ordre de 900 milliards de dollars. Rappelons qu'en Chine, la production d'électricité au charbon non seulement pollue, mais elle tue. Des centaines d'ouvriers chaque année sont victimes d'accidents dans les mines.
Aux Philippines, c'est aussi le retour en force du secteur minier.
Le retour de la croissance mondiale serait synonyme d'un retour des investissements dans les mines à hauteur de 2 milliards de dollars dès l'an prochain, 14 milliards d'ici 2014, indique le ministre en charge des ressources naturelles et de l'environnement. Les investisseurs se bousculent selon lui, mais il admet que le secteur ne bénéficie pas d'une très belle image dans l'opinion philippine. Il n'y a pas que le charbon, mais aussi le cuivre et le nickel qui d'ailleurs intéressent la Chine au plus haut point.
Alors on termine, Sophie, dans la jungle de Bornéo où les penants, comme de nombreux peuples à travers le monde se battent contre la destruction de leurs terres.
Les représentants de cette communauté installée depuis plus de 10 générations dans cette partie malaisienne de Bornéo ont tenté de manifester contre le projet de barrage conduit par la société du projet des Trois Gorges, une grosse compagnie d'État chinoise. Une fois construit, l'ouvrage anéantirait les penants en les privant de leur habitat. Une quinzaine de personnes auraient été interpellées lors de la manifestation. Les penants sont aussi menacés par les plantations de palmiers à huile et l'industrie du bois en général.
Merci Sophie Malibaud.
C'est pas du vent. sur RFI.
Christophe Aquiton, d'abord peut-être une petite réaction à cette revue Asie.
Je vais commencer par la fin parce que c'est tout à fait symbolique. On voit que sur la défense des forêts primaires, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Le pire, c'est ce qui est en train de se passer à Bornéo, où l'Indonésie utilise Bornéo, qui est la partie occupée par l'Indonésie de la Nouvelle-Guinée, puisque l'autre partie est indépendante, hein, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, et elle l'utilise comme une terre de colonisation, en effet, implantant la palme à la place des forêts primaires, en chassant les populations indigènes. Face à ça, il y a soit une réaction qui consiste à dire, laissons les firmes du Nord investir dans ces régions-là pour les protéger, un peu comme des sanctuaires. Mais nous, on pense que la vraie réponse est de donner aux populations locales, aux Pénans en particulier, mais à tous ceux qui vivent là, parce qu'il y a plusieurs types de populations, évidemment, dans ces régions-là, le contrôle de leur propre habitat. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer les choses, en mariant les questions sociales et les questions environnementales, et en donnant aux habitants des forêts primaires les moyens de gérer de façon écologique, parce qu'eux savent le faire, ces régions-là. C'est une des réponses qui nous paraît importante pour Copenhague et pour la suite.
Alors, au niveau international, comment est-ce que vous voyez la négociation climat à attaque qui doit aboutir à la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Copenhague?
Écoutez, vous avez déjà abordé plusieurs fois le sujet, mais les négociations sont plutôt mal barrées, hein, pour le dire franchement, puisqu'on a d'un côté les États-Unis qui ont pris conscience, hein, depuis l'arrivée de l'administration Obama, il y a un changement évident de point de vue, ce qui est tout à fait positif. Mais de là à ce qu'ils soient prêts à rentrer dans les négociations, les choses sont plus difficiles parce qu'ils ont un mandat du Congrès qui fait qu'on ne sait pas ce avec quoi Obama va pouvoir arriver. Puis on a surtout les pays du Sud qui, tout à fait à juste titre, hein, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, et ce sera
c'est l'objet de la deuxième partie
absolument
d'émission, ouais,
de votre émission, qui ont calculé rien que pour l'Afrique des sommes de l'ordre de 70 à 80 milliards d'euros par an ou de dollars.
Hein, de enfin, dollars.
C'est du même ordre. Par an, rien que pour pouvoir faire cette transition. Bon. Et les pays riches, à commencer par l'Europe, ne sont pas prêts à payer ça. Hein. Ils offrent des sommes bien inférieures. Et les pays du Sud, qui sont regroupés dans une coalition qui s'appelle le groupe des 77, aujourd'hui exigent d'avoir les moyens de cette transition avant de signer quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont totalement raison. Mais on voit bien que le Nord n'étant pas prêt, on n'est pas à la veille d'un accord. Donc ce qui va sortir de Copenhague peut être deux choses. Pour nous, le pire sera un mauvais accord, c'est-à-dire une espèce d'accord à minima où on essaye de dire bravo, on a trouvé quelque chose et rien de plus. Si on n'est pas capable de décider aujourd'hui, il faut au moins qu'il y ait un engagement pour la poursuite de négociations de la part des grands États et des États du Sud et qu'on trouve les moyens de faire avancer les dossiers les plus importants, comme celui des compensations nécessaires pour le Sud. Voilà, pour nous, c'est le plus important.
C'est au-delà même de la question climat, c'est un changement de société. Enfin, c'est aussi l'aveu, finalement, d'un modèle qui a montré ses limites. Là, il est en train de se passer à Copenhague, derrière la question climat, une discussion tout à fait extraordinaire sur nos changements de société.
Et sur un changement de société qui va nous concerner par des tas d'aspects. Tout à l'heure, on a parlé des villes. Hein. À l'évidence, la ville américaine n'est plus tenable. Bon, c'est la consommation, en effet, d'énergie pour le transport qui va se poser, parce qu'on est dans la société de plus en plus mobile. Mais comment se transporter sans utiliser des énergies fossiles? Alors, il y a la solution du vélo ou du scooter électrique, mais plus globalement, il y a une réflexion à avoir sur tout cela. Et puis, c'est en effet un modèle de croissance et un modèle Nord-Sud qui ne va plus.
Alors, vous proposez fin octobre un alter Grenelle régional, écologiste et citoyen.
En fait, il y a des initiatives dans toute la France comme il y en a dans le monde entier. En France, rien que pour ce qui concerne la TAC, on a déjà dénombré des dizaines d'activités dans toutes les villes de province. Et à Paris, ce sera le 24 octobre. Hein. On a eu hier soir une réunion des différentes associations et regroupements et syndicats qui vont s'investir dans cette journée, ces 6 heures du 24 octobre, où on va discuter des grands enjeux de Copenhague et mobiliser pour Copenhague.
Merci Christophe Aguiton. Fin de cette première partie de votre magazine, C'est pas du vent. On revient juste après un bref rappel de l'actualité pour parler de l'adaptation des pays du Sud au changement climatique avec l'organisation Oxfam. A tout de suite.